Écriture.
Peinture.
Danse.
Danse. Danse.
Chant.
Les chansons de Prévert me reviennent de tous les souffleurs de verre. L'aine du vieux Ferré, les cris, la tempête. Boris Vian, ça s'écrit à la trompette. Rive gauche à Paris. Adieu mon pays. De musique et de poésie.
Bonjour de nouveau. Voilà, c'est Culture Culture. Vous avez dit culture sur Radio Flandre en partenariat avec Fréquence Paris Pluriel 106.3. Voilà, là on accueille Lise Coquerel. Lise Coquerel qui anime la péniche Antipode. Et on a Ariski qui a fait le jeu du Flandre Super Flandre avec nous juste avant. Et restez avec nous. Hein. Lise, bonjour.
Bonjour.
La péniche Antipode, elle est installée où?
Elle est installée sur le bassin de la Villette.
Oui, mais je ne l'ai pas vue là, moi, justement.
Ah, bien joué. Alors, elle est installée sur le bassin de la Villette 9 mois par an. Il se trouve que les mois d'été, il faut plus d'espace pour Paris Plage. Donc actuellement, elle est à Lagny, dans le 77, et avec ses activités culturelles, des concerts, etc. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas la voir en ce moment dans le 19e. On ne peut la voir qu'à Lagny. Il y a des choses passionnantes, il y a de belles rencontres. Et on revient donc sur le bassin de la Villette le 7 septembre.
Ah, très bien. Et alors, cette péniche Antipode donc sur le bassin de la Villette, elle est installée là depuis combien de temps?
Depuis 2002. Enfin, on a la péniche a assez légèrement décalé. Elle est toujours quai de Seine, mais elle a eu deux emplacements différents depuis 2002. À l'époque, c'était donc avant 2000, on songeait très fort dans notre compagnie à avoir notre propre lieu sur un bateau. Mais c'était pas dans l'air du temps. On avait peur des péniches ventouses avec du linge qui sèche aux fenêtres. Enfin, on a... Et puis, les institutions sont un peu déridées. Et voilà, alors on a déjà essayé avec une péniche qu'on a empruntée. On était, c'était vraiment à l'arrache, comme on dit maintenant, à l'arrache, c'est-à-dire sans eau, sans électricité, avec un groupe électrogène. Enfin. Et on y est arrivé, donc ça nous a donné envie de continuer. Et maintenant, le quartier a beaucoup changé. De toute façon, ça n'a rien à voir avec ce que c'était.
Ah, parce que là, des péniches, il y en a quoi? Il y en a peut-être une dizaine là, sur le bassin, non?
Il y a 5 emplacements, 5 bornes pour des péniches, uniquement des péniches culturelles. C'est-à-dire qu'il faut avoir un projet culturel pour avoir le droit de s'installer là. Et c'est limité à 9 mois par an et 6 mois consécutifs. On arrive de septembre, octobre, novembre, décembre, on est là, on s'en va en janvier et on revient février, mars, avril, mai, juin.
Voilà. Vous allez où en février, janvier, février, vous partez où?
On va le plus proche possible parce que notre port d'attache est un peu loin, donc on va le plus proche possible, c'est-à-dire à Alfortville, voilà, pendant un mois.
Et c'est repos ou c'est relâche, c'est spectacle c'est, à Alfortville?
Non, là c'est relâche, c'est travaux, mais c'est surtout entretien, tout ce qu'on n'a pas pu faire dans l'année, voilà.
Très bien. D'accord. Donc, on parle de la péniche Antipode qui est installée sur le bassin de la Villette avec Lise Coquerel.
Voilà. Abricadabra, c'est la compagnie de théâtre qui est à l'origine du projet péniche Antipode. Et Abricadabra a beaucoup tourné depuis 10-20 ans en France et à l'étranger. Et on a beaucoup tourné aussi sur des péniches. Chaque fois qu'on faisait le Festival d'Avignon, on était sur une péniche. Donc, l'idée péniche, c'est pas nouveau.
C'est quoi Abricadabra?
Abricadabra, c'est le nom d'une association qui fait des spectacles pour enfants. Alors, il y a beaucoup de gens qui confondent avec l'Abracadabar, qui est un lieu très sympa sur l'avenue Jean Jaurès, où on entend de la musique, un bar musical. Mais ce n'est pas pareil. Abricadabra, c'est une compagnie de spectacles pour les petits, à partir de 1 an. C'est-à-dire qu'on fait des spectacles, même pour les bébés, dès 1 an.
Pourquoi des spectacles sur une péniche et pas dans une scène?
Alors, sur une péniche, on arrive à pouvoir avoir une salle qui ressemble très fort à un petit théâtre.
C'est quoi une péniche?
Une péniche, c'est alors un bateau. Alors, les péniches, c'est en général, on dit des péniches fraissinées. Elles ont un gabarit, une dimension qui est bien spécifique pour pouvoir rentrer dans les écluses. Et la péniche fraissinée, qui est la plus courante des péniches, elle mesure, par exemple, 38,50 m de long. Donc, c'est long, hein. Il y a de la place. On peut faire une belle salle de spectacle dans un espace de 38,50 m de long et de 5 mètres de large.
C'est un bateau à Ariski, à péniche. C'est ce que tu vois sur la scène. Et là, ils l'ont récupéré pour faire une salle de spectacle. Et ils l'ont installé sur le bassin de la Villette à côté. Alors Lise, tu vas nous expliquer, on va écouter une petite musique et après tu nous racontes un petit peu votre programmation de l'année et ce que vous faites à Bricadabra et la Péniche.
Oui,
d'accord,
avec plaisir.
Find your state of mind.
Alors sur cette péniche, pendant l'année, Lise, il se passe quoi avec la compagnie Abricadabra ?
Plein de choses très sympas. Ça va des spectacles pour enfants le mercredi, le dimanche et tous les jours pendant les vacances scolaires. Le matin pour les petits-petits, à partir de 1-2 ans jusqu'à 5-6 ans. Et l'après-midi pour les un peu plus grands, 3-4 ans jusqu'à 8-10 ans. Ouais. Abricadabra crée 5 spectacles au répertoire, mais bien sûr on invite des compagnies autres que qui font des spectacles autres que les nôtres. Et donc il y a une diversité de 8 à 10 spectacles différents par trimestre. Et puis à côté de ça, il y a des concerts. Le jeudi, c'est un soir à ne pas manquer parce qu'il y a vraiment des concerts sympas, plutôt adultes, hein, plutôt c'est des concerts du soir. Les soirs aussi de la semaine, il y a du théâtre pour tout public. Abricadabra et la Péniche Antipode ont créé des liens avec d'autres associations du quartier. Notamment, on fait pas mal de choses avec Café Zoïde. Et Anne-Marie Redonas a fédéré autour d'elle plusieurs lieux culturels. Et ça a donné naissance à l'association ADCO autour du canal de l'Ourcq.
Donc ADCO, c'est l'association autour du canal de l'Ourcq. Ouais. Voilà. Donc il y a la Café Zoïde qu'on connaît. Bon, je pense que pas mal de gens connaissent bien. Hein, un café tout à fait particulier installé sur à côté des anciens bâtiments là de.
Oui, Quai de Loire.
Quai de Loire. Et donc qui accueille les enfants, les adultes évidemment, mais les enfants sont accueillis bras ouverts dans ce café.
Oui.
Il y a des jeux installés pour eux, ils peuvent se prendre un petit jus.
C'est le premier café des enfants de France.
Ouvert de cette façon-là aux enfants, je crois qu'il n'en existe pas beaucoup.
Ils ont fait un travail formidable.
Hein.
Ça, c'est, ils ont fait.
Il faut avoir le tenus, ouais. La pêche. Hein.
On leur dit bravo. Oui. Et autour de leurs activités, il y a... Et autour des nôtres, il y a beaucoup d'autres qui se greffent. Et autour du canal de l'Ourcq, donc, a fédéré plusieurs lieux, comme le Tarmac à la Villette, comme l'Abracadabar, le bar musical, comme le bar Ourcq, comme le Bastrin, comme Vélo et Chocolat, comme la bibliothèque des orgues, la librairie des orgues de Flandre, toutes les bibliothèques aussi. Enfin,
bibliothèque Benjamin Rabier.
Crimée, etc. Et donc, tous les mois, il y a un rendez-vous. Je le dis parce qu'en même temps, ouais. Pour ceux que ça intéresse de se greffer à des activités associatives, culturelles sur le bassin de la Villette, si les gens ont du temps, ils peuvent aussi faire du bénévolat autour d'animations et d'activités qui ont lieu tout au long de l'année.
Vous réunissez où, par mois ?
Une fois par mois, tous les premiers mardis de chaque mois à midi, on apporte notre frichti et on déjeune à bord de la péniche Antipode. Et on coordonne des animations qui ont lieu tout au long de l'année. Et on essaie aussi d'informer au maximum sur ce qui se passe dans le 19e. Et l'idée, c'était justement de savoir un petit peu ce qui se fait autour de nous et pouvoir s'y intéresser ou apprendre des autres. Voilà. Il y a la Villette des gens qui font un travail sur leur site internet, qui viennent souvent sur la péniche Antipode, qui s'intéressent s'intéresse pas mal à tout ce qui se fait autour de Danse Quartier, donc qui relaye aussi l'information.
La Villette des gens, développée par Réseau 2000, qui est installée avec son bus là derrière
oui.
nous là-bas.
Oui, oui. On peut leur dire aussi bravo parce qu'ils font un travail formidable.
Et alors pendant l'année, tu m'avais dit il y a des Rodco, par exemple, vous organisez en commun une exposition photo.
Alors il y a plus donc autour du canal de l'Ourcq, donc est arrivé à mettre en place depuis quelques années, depuis 2-3 ans, plusieurs événements tout au long de l'année. Le premier, il commence en octobre, le 12 octobre, par exemple, sur Troc Livre. Vous venez avec un livre et vous échangez. Vous l'échangez contre un autre, voilà. En même temps, vous nous dites quel livre vous a plu, quel livre vous a déplu. On se rencontre, on parle. Donc, c'est Troc Livre. Ça se passe devant la péniche Antipode, à l'occasion de Lire en Fête. Donc, tous les ans, à la mi-octobre. Et cette année, ce sera le 12 octobre, enfin, le samedi après-midi. Venez avec vos livres. Si vous avez des livres dont vous voulez vous débarrasser, vous les amenez aussi.
Et vous en trouvez d'autres.
Et on en trouve d'autres. C'est toujours une surprise.
Après ?
Alors après, il y a, à l'occasion du mois de la photo, en novembre, il y a mon expo en vitrine. C'est-à-dire que plusieurs vitrines, des tas de vitrines du 19e, surtout du bassin de la Villette, mais du 19e, sont investies par des œuvres, des photos, soit d'amateurs, soit de professionnels. Il y a même des enfants qui vont exposer cette année. Et donc, il y a une quarantaine d'artistes qui vont exposer leurs photos dans des vitrines de commerçants. C'est aussi histoire de mélanger un petit peu les...
En novembre, ça.
En novembre, pendant tout le mois de novembre.
On en parlera à une amie, alors Karine, qui a en place une exposition sur le canal, justement, sur le bassin de la Villette, photo de nuit. Mm-hmm. Donc, elle pourra peut-être trouver une petite place, là, dans une de ces boutiques. Je lui en parlerai. Ensuite,
à Noël, on essaie de faire des événements, mais on va directement en mars. Allez, allons en mars, saute en mars, d'un grand pont en avant. En mars, il y a, à l'occasion des Journées Mondiales du Conte, un rallye de conteurs dans différents lieux, sur le bassin de la Villette.
D'accord.
On suit les conteurs en musique et on découvre des lieux qu'on ne connaissait pas. Voilà.
Très bien.
Ça aussi, c'est cette histoire de tricoter des liens sur le quartier. Et puis, ça se finit en beauté avec la rue aux enfants.
En juin,
devant Café Zoïde. Voilà.
Alors, la rue aux enfants.
La rue aux enfants, c'est un rêve d'essayer de... C'est une utopie. Alors, Anne-Marie Rodenas l'a appelé Festival d'utopie urbaine. Et c'est essayer d'investir la rue comme on rêve qu'elle soit, avec les enfants, qu'il puisse y avoir une place prépondérante et des jeux. Enfin, c'est surtout la journée des jeux, on peut dire.
Une journée.
Une journée entière dédiée à l'enfant et dédiée aux jeux.
Très bien. Le Café Zoïde d'Ariski, tu connais ? Non ?
Non.
Ah, il faut connaître Ariski, il faut absolument que tu y ailles.
Il faut que tu ailles voir ça.
Il faut que tu viennes sur la péniche Antipode. Et à Café Zoïde.
Voilà, et la péniche Antipode est à peu près en face, un petit peu décalée quand même.
Voilà, là cette année, vous avez vu que le bassin de la Villette, pour ceux qui vont un petit peu voyager de quelques mètres d'ici, il y a une halte fluviale qui accueille des petits bateaux de plaisance. Donc les péniches ont migré vers la passerelle de la Moselle. Donc on est au milieu du bassin de la Villette maintenant, on a un petit peu bougé. Voilà.
Très bien. Et Café Zoïde, c'est pas loin de la rue de Crimée. Hein,
C'est au 80.
Du pont suspendu
de la rue de Crimée. C'est, au 92 rue de Quai de la Loire. Voilà.
Voilà. Très bien. Ben, merci, Lise Coquerel. Donc,
merci à vous, Marc.
On ira vous retrouver sur la péniche Antipode.
J'espère.
Un monsieur, par exemple, qui s'est arrêté, la péniche Antipode, sur le bassin de la Villette. Mais attention. Elle n'est pas là en ce moment parce que pendant 2 mois, c'est place
à Paris-Plage.
Et après, les péniches reviennent en septembre sur la péniche Antipode avec la compagnie Abricadabra, dont Lise Coquerel s'occupe, et avec d'autres associations, dont le Café Zoïde, Abracadabar, le Café,
le
Tamarc, le Barour, qui ont aussi l'association ADCO autour du bassin de la Villette. Et ils animent ce bassin tout au long de l'année. Merci Lise.
Merci Marc.
À bientôt. Merci Ariski.
De la
danse. Ok. Au revoir.
Les chansons de Prévert me reviennent de tous les souffleurs de verre.
plaine du vieux ferré, les cris, la tempête. Boris Vian, ça s'écrit à la trompette. Rive gauche à Paris, adieu mon pays, de musique et de poésie. Les marchands mal appris qui ailleurs ont déjà tout pris viennent vendre leurs habits en librairie.
Rendez-vous, citoyens! Le rendez-vous au carrefour de votre quotidien. De nouveau sur la cité Michelet, Radio Flandre, installée au 3 bis rue de Cambrai. On était là hier, on est là aujourd'hui, on sera là encore demain jusqu'au 25 juillet. Rendez-vous citoyen. Rendez-vous citoyen aujourd'hui avec Didatika. Didatika, Léa Longeau en face de moi, bonjour.
Bonjour.
Et une collègue, Élise Macaire. Donc Didatika, ça veut dire quoi ?
C'est l'origine du mot didactique.
Didactique, pédagogie.
Voilà.
Enseignement.
Enseignement, ouais.
Et vous êtes architecte ?
Oui.
C'est ça ?
La plupart.
Donc, vous, c'est une association, Didactica. Et le lien entre Didactica et l'architecture, et vous en tant qu'architecte, tu peux m'expliquer ça ?
Ouais, ouais. Bon, déjà, si on est là, c'est parce qu'on est du quartier.
Ouais.
Parce que l'association est basée dans une école d'architecture qui est l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-la-Villette, qui est de l'autre côté du chantier qu'on a en face de nous. C'est avenue de Flandre, donc on est vraiment à deux pas, à deux minutes d'ici, là, de la cité.
Quel numéro ?
Au 144, avenue de Flandre.
Métro ?
Métro Corentin Cariou ou Crimée, ça dépend pour ceux qui préfèrent marcher de l'autre côté.
C'est l'UP6.
Et donc l'origine, ouais, c'est UP6. Ouais, l'origine de l'école, ouais. C'était des UP, c'est-à-dire des unités pédagogiques. Mais tu m'as posé une autre question, donc je sais pas, on parle de quoi ?
Oui, le lien entre Didatica
Et l'architecture. Alors en fait, Didatica donc est née dans l'école. Elle est née même à l'intérieur d'un enseignement qui était un enseignement de la pédagogie de l'architecture. C'était un optionnel qu'on choisissait en fin de parcours, c'est-à-dire. Ça existe, ouais, il y en a très peu. Hein. Je crois qu'on est la seule école, une des seules, mais pendant longtemps, on a été la seule.
Avoir un enseignement de pédagogie, il y a à Grenoble aussi qui a un enseignement pédagogique.
Mais sur 22 écoles, ce n'est pas beaucoup. Hein.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire, un enseignement de pédagogie de l'architecture ?
Ben voilà, alors ça recouvre plusieurs choses, hein, parce que ça recouvre à la fois les questions d'enseignement de l'architecture.
Comment on enseigne l'architecture aux étudiants.
Voilà. Mais ça participe à la réflexion générale sur l'enseignement du supérieur, quoi. C'est aussi des questionnements qu'on retrouve, qu'on peut croiser avec d'autres questionnements dans les facs ou dans les écoles d'ingénieurs. C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire des ponts. Mais sinon, c'est pas que ça, la pédagogie de l'architecture. C'est aussi la sensibilisation à l'architecture.
Voilà.
Et là, tout d'un coup, ça fait un pont avec ce que nous, on a mis en place. Parce que, en fait, au sein de cette optionnelle de la pédagogie de l'architecture, on traitait de ces deux questions en même temps, quoi. Et il se trouve que la plupart des étudiants...
Dedans, dehors, quoi.
Voilà, exactement.
La pédagogie à l'intérieur, la pédagogie vers l'extérieur.
Voilà.
Et l'architecture au milieu.
Alors nous, sensibilisation de la société à l'architecture, ça, on n'aimait pas trop cette formule. Et nous, on a développé justement plutôt la question de aider à développer la sensibilité à l'architecture. Parce que finalement, tout le monde a une sensibilité à l'architecture. On part de cette idée que finalement, tout le monde vit l'espace habité.
Au milieu de l'architecture.
Et donc, c'est partir plutôt des sensibilités. Donc là, c'est aussi une posture finalement qu'on retrouve dans les différents courants pédagogiques, hein, de partir plutôt des sensibilités des gens pour développer des connaissances avec eux, au lieu de dire « je te transmets un savoir que tu n'as pas ».
Oui, disons qu'il y a plusieurs aspects. Il y a effectivement un aspect de faire de l'architecture, c'est-à-dire comment transmettre une capacité à faire de l'architecture, mais aussi apprendre, c'est-à-dire tout simplement découvrir à travers son expérience et valoriser cette expérience-là et valoriser sa propre connaissance de l'architecture. Donc il y a ces deux aspects, c'est-à-dire approfondir une connaissance, mais en même temps commencer à voir comment on peut faire de l'architecture, comment on l'a fait, quoi. Donc nous, on est là aussi pour transmettre ça.
Comment on l'a fait, discuter de cette question-là avec les gens, avec chacun.
C'est plutôt mettre en place des dispositifs pour faire ensemble, en fait.
En fait, on se situe, en termes de pédagogie, on se situe beaucoup dans une filiation, en fait, des pédagogies actives. Donc, pédagogie freinée, pédagogie institutionnelle, qui sont des pédagogies qui utilisent notamment le projet, en tout cas qui utilisent des démarches actives pour produire de la connaissance, mais à partir d'activités réelles. C'est-à-dire que quand on fait un atelier d'architecture, on ne fait pas que transmettre de la connaissance sur l'architecture. On met les gens en position aussi
d'être architecte.
Voilà, c'est ça.
D'occuper la position d'architecte.
Quand on débarque dans une école, par exemple, dans une classe, moi, je dis aux enfants en général, bon, ben, on est tous architectes, alors allons-y. On va tous essayer de produire. Alors, en plus, il y a aussi un autre enjeu, c'est l'œuvre collective, ce qui est très peu répandu en architecture, qu'on retrouve mieux dans le cinéma, d'ailleurs, cette culture de l'œuvre collective. Mais en architecture, pas du tout. Même s'il y a plein d'intervenants, d'acteurs qui produisent l'architecture, parce que finalement, l'architecte qui produit pas.
Quel acteur ?
Dans le bâtiment ?
Oui.
Bah, c'est énorme. Quand tu pars déjà du commanditaire, ce qu'on appelle le maître d'ouvrage ou même celui qui a un désir d'architecture, donc souvent il a les moyens.
Maître d'œuvre ou maître d'ouvrage.
Non, ça c'est le maître d'ouvrage.
D'accord.
Et après, donc il fait appel en effet à un concepteur, maître d'œuvre. Mais là encore.
Avant, il y a une phase de programmation. Voilà, des programmateurs qui font une sorte de cahier des charges, en fait, qui va être destiné au maître d'œuvre, qui est l'architecte.
Voilà.
Et la maîtrise d'œuvre, après, elle est composée de plusieurs professionnels, dont l'architecte, mais les bureaux d'ingénieurs, par exemple, font partie de la maîtrise d'œuvre, les économistes, il y a tous les gens qui...
Les environnementistes.
Ouais.
Donc, c'est vrai que...
Et vous trouvez qu'ils ne travaillent pas vraiment ensemble?
Mais si, mais ça, c'est professionnel. C'est-à-dire qu'en fait, ils se répartissent les tâches. Mais la responsabilité, par exemple, et ça, c'est même dans les textes, la responsabilité revient, il y a un chef maître d'œuvre, et finalement, on n'entend parler que de lui, de toute façon.
Et le créateur.
C'est le créateur, quoi. En fait, nous,
Un architecte, ce maître d'œuvre.
Oui, essentiellement, oui.
Mais quand je disais plein d'acteurs, même sur un chantier, quand tu vois toutes les entreprises qui interviennent de tous les corps de bâtiments, c'est énorme. Mais donc tu vois, a priori, c'est une œuvre collective, mais elle n'est pas pensée et elle n'est pas reçue comme une œuvre collective. À la différence du cinéma où quand on voit un film, on sent bien il y a une transmission de tous ces acteurs qui participent à cette œuvre qu'on vient de voir. Alors que l'architecture,
réalisateur, acteur, éclairagiste, opérateur, effectivement, oui, on a la sensation qu'ils travaillent tous ensemble. Mais bon, il y a aussi des petits égos. Il y a aussi au cinéma, il y a quand même le réalisateur qui est mis en avant. Au théâtre, il y a un acteur ou un metteur en scène.
Ce qui fait la spécificité de l'architecture, et ça c'est ce qui fait que c'est aussi un art populaire, on peut dire, c'est que personne n'y échappe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas échapper à l'architecture. On est tous, on peut dire, usagers de l'architecture.
Encerclés par l'architecture ?
Oui, et on la pratique. On est tous, alors que le cinéma, on n'est pas obligé d'y aller. Et donc, c'est, le fait d'être usagers de l'architecture, on est tous partie prenante de ça. Et nous, notre position à Didatica, c'est que tout le monde devrait participer à la création de l'environnement du cadre bâti. On devrait tous participer à ces lieux qu'on habite. À la création.
Mais il y a toute cette envie, elle part aussi d'une grande émulation, d'un grand dynamisme de cette UP6, de cette école d'architecture. Ça vient d'où ? Vous pouvez me raconter un petit peu cette histoire de ce lieu politique ?
Ouais, c'est un lieu politique. D'ailleurs, pour l'anecdote, MLF se réunissait à UP6. Donc MLF, pour ceux qui ne connaissent pas, Mouvement de Libération de la Femme. Mais le DAL, par exemple, fait ses AG actuellement à UP6 aussi. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des liens avec les luttes urbaines, les luttes féministes, les luttes politiques sociales. Donc en fait, les UP, les unités pédagogiques d'architecture, sont très récentes finalement, puisqu'avant on était aux Beaux-Arts, hein, on a été aux Beaux-Arts... très très longtemps, on était considéré comme un art parmi les autres, donc sans lien avec des disciplines comme les disciplines de sciences sociales. Mais donc les UP en fait ont été créés suite à un mouvement étudiant qui a revendiqué le fait d'être plus en lien avec les problématiques qui se posaient autour de nous, c'est-à-dire la reconstruction après-guerre. Donc c'est dans les années 60 que les étudiants, une des premières revendications, ça a été de faire par exemple du logement, puisque aux Beaux-Arts, ils ne faisaient même pas de logement. C'est-à-dire ils faisaient que de l'architecture monumentale, donc musée, architecture pour... on était dans la suite de l'architecture pour le roi, quoi. Hein, c'est-à-dire que des bâtiments publics institutionnels. Voilà. Mais c'était en fait, c'est pas qu'ils en faisaient pas, ils en faisaient, mais c'est dans l'enseignement et dans la discipline, donc dans le champ, c'était pas reconnu comme étant de l'architecture, tu vois, au sens académique du terme.
Ils le mettaient pas sur leur CV.
Voilà. Ah oui. Bon, c'est difficile parce que souvent on nous pose la question, oui, mais alors les architectes qui construisaient les grands ensembles, est-ce que ils étaient critiques de ce qui se faisait? Parce que aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des problèmes liés à l'espace bâti dans ces années-là, inhumains. Bon, il se trouve que c'est une période de l'architecture, on a industrialisé l'architecture, c'est-à-dire que c'est devenu une industrie, alors qu'avant on n'en était pas encore là. C'est vraiment le début de l'industrialisation de l'architecture.
Qu'est-ce que tu entends par industrialisation? De l'architecture.
C'est les préfabriqués, c'est le fait de reproduire des cellules à une grande échelle. Et donc les moyens, du coup, hein, parce que le béton armé a vraiment pris... Enfin, je sais pas, on pourrait faire une carte exponentielle, tu vois, de la construction en béton armé. C'est dans ces années-là que même des supports techniques, enfin des techniques de construction ont été inventées, mais qui sont des techniques faites industriellement. C'est-à-dire, c'est là où on n'avait plus besoin d'artisans, on fabriquait beaucoup plus avec des machines. C'est en ce sens que j'utilisais
les
le terme d'industrie.
Les métiers d'artisanat sont d'ailleurs un petit peu perdus ou tombés un peu en désuétude.
Les architectes qui se sont rebellés, qui n'étaient pas encore architectes, qui étaient étudiants aux Beaux-Arts aussi, c'est tout un mouvement. C'est pour ça que nous, on s'intéresse un peu plus au mouvement étudiant, dans le sens où les mouvements étudiants, ils sont aussi dans une critique de la discipline. Et ça, c'est très important parce que c'est la définition de ce qu'est l'architecture. Qu'est-ce qui est de l'architecture? Qu'est-ce qui n'en est pas? Et c'est à partir de là que justement eux ils avaient une lutte sur l'enseignement, donc transformer l'enseignement pour transformer les pratiques des architectes. Et donc ces architectes qui justement étaient critiques, ils étaient de toute façon par ailleurs militants sur d'autres terrains et ils participaient aux luttes urbaines de l'époque. Par exemple, c'était l'époque où Belleville, il y a eu ce projet de destruction du quartier de Belleville là où est la place des fêtes actuellement. Bon, des architectes participaient comme d'autres aux luttes urbaines pour revendiquer la valeur de ces quartiers, la valeur sociale et même architecturale, parce que on a détruit des bâtiments qui étaient largement viables et
intéressants, voilà, en termes d'architecture.
Et donc c'est plus là on peut appeler ça des luttes urbaines, et là à ce moment-là les architectes pouvaient jouer un rôle de conseiller et de technicien. D'ailleurs c'était beaucoup utilisé à l'époque, le terme de technicien. Et dans le cadre de ces luttes, j'ai cherché mon mot, c'était se mettre au service en fait de lutte. Et donc il y a un exemple de cette époque qui est l'exemple numéro un, c'est l'expérience de l'Almagar, un quartier de Roubaix qui est un quartier ouvrier qui est justement dont la mairie voulait rénover les espaces communs, mais aussi les habitats. Et donc il y avait un projet de destruction, et les habitants se sont mis donc en lutte, se sont constitués en collectif, après en association. Et là ils ont fait appel à des architectes qu'ils connaissaient par ailleurs dans des mouvements politiques, parce qu'à l'époque quand même on était dans un bouillonnement quand même de groupuscules politiques auxquels participaient des architectes. Mais il se trouve que pas mal d'architectes, et là aujourd'hui on peut faire un rapprochement avec ceux qui ont participé à la création aussi de friches qui étaient des squats au départ, mais où certains architectes ont joué des rôles très importants dans l'aide à la programmation, à l'officialisation de ces lieux, à la conception de la transformation, donc au sein des collectifs qui occupaient les squats. Donc c'est à mettre en lien avec certains mouvements qu'on voit aujourd'hui, où les architectes participent plus à un mouvement finalement qu'autre chose, mais ça c'est une partie. Donc UP6 pour moi c'est un peu ça. Alors peut-être que pour Élise c'est autre chose.
Donc on a fait le point sur UP6, on va voir un petit peu de plus près vous, Didatica, qui êtes-vous au milieu de tout ça, mais on écoute d'abord Scarlett Johansson.
A crooked street in Houston town. It's a well-worn path I've traveled down. Now there's ruin in my name. I wish I never got off the train. And I wished I'd listened to the words you said. Don't go down to Fannin Street.
Yeah. Léa Longeau, Lise Marker de l'école d'architecture de la Villette, École nationale d'architecture de la Villette, avenue de Flandre. Donc, vous avez passé combien d'années dans cette université, dans cette école ?
Alors nous-mêmes, bah, ça fait assez longtemps qu'on y est, puisque maintenant on est diplômé de l'école. Donc voilà, ça se compte. Maintenant, c'est plus de 10 ans.
Et vous l'avez jamais quitté ?
Et
finalement,
oui,
puisque vous avez mis une association Didactica au milieu de cette école.
Voilà, et on est passionné. En fait, on est passionné par l'enseignement de l'architecture. On a décidé de contribuer à la réflexion et à la transformation de l'enseignement de l'architecture, en proposant des alternatives et en proposant une réflexion. On est très lié à la recherche de l'école, d'ailleurs, on est dans le département de recherche, donc on appartient à cette école à plusieurs titres, à titre militant, mais aussi à titre de contribution, on va dire, scientifique, réflexif, etc.
Il s'est passé pas mal de choses, c'est vrai, on peut s'attacher. Il s'est passé des luttes intéressantes dans cette école. Alors, et ça continue, voilà. Il semble.
Oui, en fait, nous, quand on est arrivé à l'école d'architecture au début des années 90, alors Léa était à Toulouse et moi à la Villette, mais en 95, il y a eu un très grand mouvement.
Tu peux nous rappeler un peu qu'en 95, c'est quoi ce mouvement social ?
Alors pour l'architecture, il se trouve que le gouvernement avait décidé de nous transférer de l'équipement à la culture, qui était simplement, c'était une opération financière.
L'été, il faut rappeler. Ils ont fait ça pendant l'été, c'est pour ça qu'à la rentrée, il y a eu un gros mouvement, hein. Ils nous ont bien eu.
Oui. Et bon, c'était associé à plein de réformes sociales autour, c'est pour ça qu'il y a eu des grandes grèves dans les transports notamment. Mais on n'était pas d'accord avec ce transfert, puisqu'on perdait les crédits. Déjà, on n'était pas très riches, mais en plus, on allait l'argent des écoles d'architecture. On était convaincus que c'était pour atteindre le 1% du budget de la culture. Et du coup, c'était pas, pour nous, pas du tout intéressant d'intégrer un ministère très pauvre et de plus incompétent sur l'architecture.
Bon, il faut savoir aussi que ce ministère, c'était le ministère de la culture et du. On était sous la tutelle de la direction de l'architecture et du patrimoine. On avait l'impression de faire un retour en arrière de 30 ans parce que tout d'un coup on redevenait du patrimoine alors que ça avait été la lutte des années 60. Quoi.
Pour s'intégrer, pour être actif dans le présent et auprès des citoyens et auprès de la société. Et là, ce retour au musée, ce retour à l'architecture de glace.
La belle architecture.
Voilà, nous ne convenait pas du tout. Alors ce mouvement d'étudiants a été très important parce qu'il a été porteur d'une grande réflexion à la fois sur l'enseignement de l'architecture, mais aussi sur le rapport de l'architecture à la société et sur le métier d'architecte. Donc c'est toute une génération d'étudiants finalement qui s'est formée à ce moment-là à des questions politiques et au sens finalement qu'on donne à son métier.
Et à l'époque, on parlait de métier de l'architecture pour justement contrer la question du métier unique d'architecte, parce qu'il se trouve que pas mal d'étudiants qui sont formés dans les écoles donc ont le statut d'architecte, mais en fait se retrouvent dans plein de métiers différents qui ne sont pas les métiers traditionnels qu'on a l'habitude d'entendre dans les médias ou ailleurs, maître d'œuvre d'un bâtiment. C'est-à-dire que, en fait, les écoles formaient à plein de métiers. Voilà. C'est la diversification du métier.
Donc à la Villette, il y a eu des assises de l'architecture. On a organisé on s'est dit à un moment, on fait un état des lieux. Qu'est-ce qu'on veut, quelle école on veut, quel métier on veut. Et ça, ça a été porté beaucoup par un corps aussi enseignant lié aux sciences humaines. C'est-à-dire que ce qui fait une des particularités de l'école d'architecture de Paris-La Villette, c'est d'avoir un potentiel important d'enseignement lié aux sciences humaines, d'où l'aspect est lié notamment à l'aspect politique de l'architecture. Les enseignants qui sont aux côtés des architectes jouaient aussi un rôle très très important dans la pédagogie. C'est-à-dire qu'un sociologue, un anthropologue, un philosophe,
un économiste,
un plasticien pouvaient participer à l'enseignement du projet d'architecture. Ce qui est très particulier, c'est ce qu'on appelle la transdisciplinarité. Enseigner dans une école d'architecture, enseigner le projet d'architecture, ça, quand on convoque tout un tas de disciplines, c'est très très intéressant. Ce qui n'est pas la même chose quand on est dans la reproduction d'un modèle voilà, d'un modèle professionnel, le rapport au maître-élève a été cassé à ce moment-là. C'est-à-dire que tout un ensemble de personnes avaient un regard sur la production et la conception de l'architecture.
Toute cette réflexion est intéressante, mais je n'ai pas l'impression que finalement elle soit très développée sur le terrain. On parle de participation, de concertation... à toutes les sauces, on fait des conseils de quartier, on pense l'architecture ensemble, on pose des questions, mais on n'a pas vraiment l'impression qu'on va jusqu'au bout de la démarche.
Ben oui, parce qu'on n'a pas de gens compétents pour le faire. Le problème, c'est que les architectes ne sont pas formés à ça, par exemple.
Ça, c'est une position.
À ce débat, à cet échange.
Et ça, c'est une position absolument de l'association Didatica. Nous, on s'intéresse à la pédagogie aussi pour former les architectes à la pédagogie. Parce que si tu veux vraiment mener des processus participatifs, du coup, c'est mettre en place ce que nous, on appelle la pédagogie active, c'est-à-dire mettre en place des ateliers participatifs qui sont des ateliers longs qui poursuivent en fait tout le processus de conception jusqu'à la réalisation. Mais ça, pour ça, les architectes, il leur faut une formation. Ils ne savent pas faire. Ils ne savent pas mener un atelier, par exemple, collectif.
Effectivement, on a l'impression que y a un peu la concertation au début du projet, là, au moment du cahier des charges. Il y a un peu d'échange là, qui se fait au moment de la programmation. Et ouais. Puis après, une fois que cette partie-là est faite, ça roule, quoi.
On fait son œuvre d'art.
Finalement, qu'est-ce qu'on a retenu des débats avec les citoyens ?
Il faut savoir qu'on est vraiment dans une période de l'histoire, justement, qui est assez intéressante, parce qu'il se trouve que toute la participation aujourd'hui est motivée par des lois. Aujourd'hui, il y a obligation de le faire. Et donc ça, c'est pour nous, c'est vraiment une aubaine, puisque maintenant que les municipalités, que les collectivités locales ont l'obligation de faire participer les habitants pour le plan local d'urbanisme ou pour tout un tas de documents maintenant. Donc, on est dans une période où on est obligé de se munir d'outils et de mettre en place les choses.
Mais comme vous le dites, on est obligé, mais est-ce qu'il y a les moyens pour le faire ? Est-ce qu'il y a la réflexion pédagogique pour le faire ? Pour vous, c'est votre combat.
Voilà. Didatica, ouais. C'est mettre en place une réflexion pour proposer des outils et des méthodes, en fait. La pédagogie, c'est de la méthode. C'est vraiment que ça.
Oui, enfin, et rendre actifs les gens, hein, parce que discuter, oui, à un moment donné, il faut mettre la main à la pâte et, par exemple, faire dessiner, faire même des maquettes ensemble, tout faire ensemble. En fait, l'idée, c'est de tout faire ensemble. Parce que l'enjeu pour nous, à Didatica, parce que c'est vrai que la participation et la concertation, c'est beaucoup des discussions. Alors, quels sont vos besoins? Là, j'ai besoin je voudrais que la salle de bain ait une fenêtre. Bon, tu vois, ça reste souvent à un certain niveau. La concertation. Mais nous, l'enjeu pour nous du métier...
Un digicode.
Voilà. Nous, pour nous, l'enjeu du métier, c'est se situe dans la conception et donc dans l'acte créateur qui était souvent réservé qui est réservé à l'architecte. Et donc ça a très peu lieu, dans les pratiques professionnelles. Et nous, c'est pour ça que pour l'instant, on n'a pas vraiment produit de l'architecture, mais on voudrait tendre vers des productions où les citoyens, les premiers concernés, à chaque fois qu'il y a une architecture, bon, souvent c'est l'architecture publique, mais à chaque fois qu'il y a un projet d'architecture, ça soit situé au niveau de la création et donc de la conception. Parce que l'architecte, c'est le concepteur. Et donc, du coup, il va chercher les besoins. D'accord, il peut être très sympa avec les habitants, dire de quoi vous avez besoin, je vais répondre à vos besoins. Parce que tout ça est très connoté humanisme, chercher le mot. Donc ça, dans les écoles d'archi, c'est très présent. Mais alors, c'est quel humanisme d'ailleurs on a,
alors,
c'est une vraie question.
C'est bien parce que ça fait le pont un petit peu avec nos activités pédagogiques et c'est intéressant de parler de ce qu'on fait par exemple en milieu scolaire. Voilà. Puisque là, on peut aller jusque dans la production avec les enfants. C'est-à-dire qu'on peut construire des cabanes, on peut construire des aménagements de cours d'école, on peut faire des choses où... suite à l'atelier pédagogique, on va jusqu'à réaliser quelque chose. Et ça, pour nous, c'est vraiment intéressant parce que on va jusqu'à au bout et voir qu'est-ce que ça donne ensemble, ce qu'on avait imaginé qui serait bien pour tout le monde, quoi. Et ça,
Par exemple, vous êtes au sein d'une école et vous pouvez proposer ensemble avec les enfants sur un projet, dans le développement de ce projet, arriver à une réflexion sur les aménagements possibles au sein de l'école.
Tout à fait. On a eu plusieurs expériences dans ce genre-là à l'association. Et ce qui est très, très intéressant, c'est qu'on arrive à croiser donc, le projet d'architecture avec le projet pédagogique. Donc, avec tout un ensemble d'apprentissages qu'on peut faire sur la lecture de l'espace, l'organisation un petit peu des jeux. Enfin, qu'est-ce qu'on veut avoir dans... Donc, il y a toute une dimension un peu de discussion collective. Donc, on arrive à travers ces projets-là, justement, d'aller d'un bout à l'autre de l'exercice.
Vous arrivez à avoir aussi un échange avec le corps enseignant sur ces points-là, avec la direction ?
Oui. Ben oui, en fait, ça se fait toujours en partenariat. Donc, ce qui est intéressant, c'est les écoles où il y a des conseils d'enfants, où il y a des dispositifs qui permettent justement à toute l'institution d'être mobilisée sur le projet.
Et d'ailleurs, on pourrait même dire que les écoles primaires sont des modèles de démocratie. Parce que dans les écoles primaires, il y a vraiment des expérimentations de la démocratie, mais au sens concret. C'est-à-dire, justement, il y a plein d'écoles où
c'est
les enfants...
C'est très positif, hein ?
Ah, mais
pas
oui
toutes.
Mais non, mais il y a des expériences. Il faut s'appuyer sur ces expériences. Mais ça, je suis pas là. Enfin, on est plusieurs à penser ça. C'est que les instituteurs expérimentent des choses.
Souvent au sein de leur classe, quand
mais
même.
Oui, au sein de leur classe, mais dans certaines écoles aussi. Nous, on est intervenus, par exemple, dans une école à Lagny qui avait un conseil d'enfants. Et tout se décidait avec le conseil d'enfants. Et on est intervenus. Bon, on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Ça, c'est pour une autre histoire. Mais on devait intervenir pour le réaménagement de la cour d'école qui avait été décidé par l'ensemble de l'école. Autre exemple, l'IME, l'Institut médico-éducatif d'une région, on est intervenu, pareil, pour l'aménagement de la cour d'école des enfants. Et tout ça était en partenariat avec la direction, les instituts, les éducateurs. En fait, l'architecte devient tout d'un coup, le rôle qui lui est... pour nous central, c'est un rassembleur en fait. Un architecte devrait être simplement un rassembleur de comme dit Jean Houry, d'ailleurs. C'est-à-dire parce qu'on est sur les désirs. Et donc comment arriver à rassembler les désirs des uns et des autres ? Donc ça nécessite des méthodes coopératives, pédagogiques.
Donc après, en termes d'outils, on utilise aussi beaucoup la vidéo parce que pour nous, c'est très important d'utiliser des outils, pas forcément les outils propres à l'architecte, mais aussi des outils qu'on a aujourd'hui, comme la photo, la vidéo. La vidéo, c'est un outil très intéressant pour analyser aussi une discussion collective, c'est-à-dire revenir un petit peu sur ce que chacun a dit, pourquoi il l'a dit. Donc c'est les outils dont on a besoin pour la participation dépassent largement les outils traditionnels de l'architecte, en fait. Donc, Didatica, c'est aussi une réflexion sur les outils et les nouveaux outils dont on a besoin aujourd'hui.
Mais c'est vrai que par rapport à ces concepts, quand on organise, parce qu'on pourrait dire l'autre forme d'action qu'on mène à Didatica, qui est l'organisation d'événements culturels, politique et scientifique. On s'est fait un peu on mène de ces expériences-là. Et quand on organise un événement, là, on va prendre un plaisir fou à utiliser justement les termes propres à l'architecture. Ce serait plutôt dans ce sens-là. C'est-à-dire que quand on fait des ateliers qui ne sont pas forcément des ateliers d'architecture ou quand on fait des événements, eh ben, on va utiliser le vocabulaire de l'architecte pour justement déplacer les vocabulaires, pour en fait questionner les doctrines aussi.
C'est déplacer un petit peu les pensées, faire réfléchir autrement, proposer d'autres modes de réflexion pour un petit peu rénover la pensée. Ouais. Et l'expérience Rome, ça a à voir avec ça ? Racontez-nous cette dernière expérience, après on se quittera.
Ouais.
Sur une petite musique.
D'accord.
Mais alors les Roms ?
Les Roms, ça fait partie de ces gens avec qui on a envie de travailler, en fait. Parce qu'on a un peu des publics, il y a des publics avec qui on a envie de travailler. Donc on avait commencé avec des Kabyles, un collectif de sans-papiers Kabyles. Puisque bon, nous on est très proche des questions de société, des questions brûlantes aussi, qui pour nous sont des questions centrales des démocraties d'aujourd'hui. Donc l'accueil des étrangers comme étant une question principale, et donc on a investi des actions avec des personnes qui justement sont des victimes de ces démocraties occidentales qui n'accueillent pas l'étranger avec un grand E. Et donc on a commencé avec des Kabyles en 2003. Donc on a organisé un grand événement, un peu sous le signe de l'université populaire, puisqu'on a accueilli donc 500 sans-papiers kabyles à l'école d'architecture autour de donc de tables rondes. Donc il y avait la dimension scientifique et réflexive, d'où on accueillait à la fois des gens spécialisés sur le droit des étrangers, droit d'asile, liberté de circulation, mais aussi des militants. Donc on aime bien aussi faire se croiser les cultures scientifiques et militantes, en fait, associatives. Et donc ces événements ont une sorte de couleur qui pour nous fait partie un peu d'une composition formelle qui a à voir avec la composition d'un espace-temps qui est l'architecture. Donc on a continué avec les Roms, en fait.
Qu'est-ce que vous avez fait avec les Roms?
Alors, avec les Roms, en fait, bon, il y a eu.
Tu as fait une petite digression pour me parler des Kabyles, du groupe de Kabyles, c'est très bien. Et avec les Roms, non, vous avez fait la même chose?
C'est très important parce qu'avec les Kabyles, on a commencé à poser la question des peuples sans État et sans territoire. Et donc, c'est ce qui nous a amené vers les Roms, en fait. Entre autres, mais on avait très envie depuis longtemps de travailler avec eux. Hein, donc, et alors, en fait, l'idée, c'était de faire un film avec eux. Pour travailler justement la représentation, représenter un peuple, c'est quoi, et justement le rapport des Roms au cinéma, parce que c'est quand même problématique. Les Roms, en fait, sont victimes pas mal des représentations et préjugés. Donc, ils sont mal connus. Il y a une ignorance grave, enfin très importante concernant leur histoire, leur culture. Et donc, nous, on avait un peu cette conviction qu'il fallait travailler là-dessus, sur les représentations et la connaissance d'une histoire et d'une culture. Donc, on les a rencontrés. On a voulu travailler aussi avec des Roms intellectuels aussi. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs positions aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire travailler aussi avec des alter-ego, parce que souvent les militants qui justement travaillent avec les Roms pour essayer de changer un peu leur place en France, puisqu'on est en France, travaillent avec ceux qui sont dans des situations de survie et ce qui est des situations d'urgence. Et nous, on voulait, avant de travailler avec ceux qui survivent, c'était de rencontrer ceux qui justement se sont émancipés pour travailler avec eux vers les gens qui survivent. Parce que, et ça, c'est très important, ça parle de la méthode aussi. En tout cas, en tant que non-Rome, moi personnellement, je trouvais que je n'avais aucune légitimité d'aller vers des gens qui n'ont pas les moyens. Et je voulais travailler avec des Roms aussi en coopération. En fait, il y avait vraiment cet enjeu de coopérer dans un travail de conception d'un objet, donc un film qui n'est pas encore réalisé. Et pour construire cet objet, donc il fallait se donner les moyens du rassemblement, comme j'ai dit tout à l'heure. Comment rassembler les gens et faire un collectif, qu'un collectif porte une œuvre, parce que c'était ça l'enjeu. Et donc on s'est dit, on va organiser un événement politique qui va nous apprendre à travailler ensemble. Et donc on a organisé un grand événement politique, public, on a créé un espace public dans la ville de Montreuil. Donc c'était la Journée mondiale des Roms, le 8 avril 2007. Et donc ça a été énorme,
des débats, un grand banquet
gratuit. Alors ça, c'est notre spécialité aussi. À chaque fois, on fait des grands banquets gratuits.
On se rassemble bien autour d'une table.
Ah, ça c'est sûr.
C'est un point de départ donc, essentiel.
Voilà, des recettes culturelles. Donc là, il y avait des recettes des quatre coins du monde, puisque les Roms sont dans les quatre coins du monde. Il y avait évidemment de la musique, une grande scène artistique avec 50 musiciens. Il y avait une grande expo qu'on avait produite, donc là, en partenariat avec les Roms scientifiques. Il y avait des stands, des productions des enfants de Montreuil qui avaient vécu, qui étaient en train de vivre, en fait, un atelier pédagogique, parce qu'on a fait des ateliers pédagogiques dans des écoles primaires, pour que les enfants de Montreuil contribuent à cette production de connaissances.
Et donc, Élise, Ça pose question justement par rapport à la question, si on revient à l'architecture, à l'urbanisme et tout ça, et de se confronter, je pense que c'est pas mal pour des architectes, des urbanismes, effectivement, de se confronter à un peuple, les Roms, qui ne se préoccupe pas a priori d'architecture ou d'urbanisme.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette expérience-là pose la question du rapport au public, avec qui on a l'habitude de travailler. Et c'est vrai qu'on fait partie d'un ensemble d'un réseau, on peut dire en tout cas d'un ensemble de collectifs qui, en tant qu'architectes, ont décidé de travailler avec des publics qui n'ont d'habitude pas accès à l'architecture, ou en tout cas qui ne rencontrent pas les architectes.
Et en même temps, pour revenir juste au Rhum, comme je disais, a priori, c'est un peuple qu'on peut se dire, on ne pense pas architecture, on ne pense pas urbanisme, mais quand même, justement, si, urbanisme, ils ont toute leur place, là, justement. Si on n'est plus dans l'architecture, l'urbanisme, l'architecture, c'est très proche, c'est une seule et même chose.
Hein. Absolument, oui.
C'est la gestion de l'espace, l'espace de chacun.
Donc, hein.
Il faut l'intégrer, ça, il faut le penser. Il faut le penser avec eux aussi pour...
Il y a deux
ils
choses.
Ils n'ont peut-être pas besoin de maison puisqu'ils en ont et ils se promènent avec eux, mais il faut qu'ils les posent quelque part. Ces maisons.
Alors bon, Léa répondra peut-être sur cette question-là, mais je dirais il y a deux choses. Pour nous, il y a eu cette question des peuples sans territoire compact, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui d'être un peuple sans État, mais qui en plus n'a pas un territoire, un seul territoire unique, mais qui est réparti comme ça sur un ensemble de territoires. Et pour nous, ça a été une question très intéressante sur le rapport à l'espace. C'est quoi appartenir à une nation qui n'a pas de territoire? Et alors, ça pose la question du lien à la société, du lien à la communauté, de l'identité. Donc ça a été une dimension. Et puis effectivement, cette autre dimension les Roms en France, ils appartiennent à la nation Rome, mais sont citoyens français, c'est-à-dire que beaucoup ont la carte d'identité et votent. Donc en fait, les Roms sont très diverses. On a
alors
peut-être faudrait que tu expliques, Léa, la diversité des Roms en fait. Qui sont les Roms?
Ça va peut-être être un petit peu long.
En deux mots, parce que c'est très important pour comprendre cette question du rapport à l'espace.
Allez, vas-y, lâche-toi, Léa.
En deux mots, non, mais c'est juste parce que nous, quand on dit Rome, en fait, c'est ceux qui sont appelés la plupart du temps Tziganes, gens du voyage, en tout cas les Roms français. Les Roms français sont plutôt appelés Gitans, Tziganes, gens du voyage, Manouches. Nous, on utilise le terme de Rome pour parler du nom du peuple et qui englobe tout le monde. Les Roms orientaux, les Roms de France et les Roms d'Espagne. Parce qu'en fait, il y a trois dialectes, en fait, trois branches au peuple Roms. Il y a les Roms d'Espagne qui ont perdu leur langue, les Roms qui sont passés par l'Allemagne et qui sont très nombreux en France, et les Roms orientaux, et qui, eux, ont gardé leur nom. Parce que justement, c'est ceux qui ont gardé le plus leur langue.
Et ce qui est très intéressant chez les Roms, pour finir, c'est que c'est l'histoire, c'est un peuple dont l'histoire est marquée par le rapport à l'espace. C'est l'histoire du peuple Rom, c'est l'histoire d'une migration. Ils sont partis d'Inde, ils sont arrivés ici, par exemple, en France, il y a
15e siècle.
Il y a 500 ans. Ouais. Donc c'est très particulier que d'avoir traversé le monde.
Pour terminer, effectivement, reprendre. Il me semblait qu'au-delà, effectivement, de la question d'espace, il y avait un pont là qui a été un petit peu approché. Vous venez d'en parler, la question de la langue. Et il me semble que la langue, c'est un espace en soi aussi.
Oui, moi, je dirais que c'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup à la linguistique, mais aussi à la psychanalyse. Et c'est vrai que c'est ce qui fait le pont entre l'architecture et la langue. C'est-à-dire que nous sommes tous, le fait de vivre dans l'architecture au quotidien, notre inconscient est complètement marqué par ça. Et c'est Félix Guattari et Gilles Deleuze qui ont beaucoup travaillé sur cette question-là, sur notre rapport au territoire. Ils ont parlé de déterritorialisation et de processus de reterritorialisation. C'est-à-dire qu'on a un rapport au monde comme ça qui est dans un processus lié à l'espace. Et tous les espaces qu'on traverse, dans lesquels on vit, qu'on parcourt au quotidien, imprègnent notre inconscient. Et on parle, eux ont proposé cette notion de territoire existentiel. Nous avons tous un rapport existentiel au territoire. Et la langue, effectivement, est le lieu aussi de l'expression de ce rapport au territoire. Et pour nous, la langue est vraiment une question très importante. Quand on a travaillé avec les Roms, on a travaillé avec des linguistes, essentiellement. Voilà.
Ça sera notre prochain débat, si vous êtes d'accord, Didactica. Hein, la langue... Quelle place lui donner dans le prolongement de l'architecture et de la pensée sur l'architecture avec les gens. Voilà, donc on peut vous trouver Didactica au 144 rue de Flandre, dans le 19e. C'est l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Lavillette, une association loi 1901, qui a donc ses locaux au sein de cette école. Voilà. Merci Léa Longeau.
Merci.
Merci Lise Marker.
Merci beaucoup.